Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Transversar, édition spéciale puisque nous sommes actuellement dans le NTH8 pour réaliser cette émission et nous sommes en compagnie de Sylvie Mongin-Algan. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Donc nous allons notamment évoquer le spectacle que met en scène Sylvie Mongin-Algan au Théâtre de Vénissieux les 3 et 4 février prochains. Et profiter de cette occasion pour évoquer l'ensemble de son parcours et ses projets, en évoquant notamment le NTH8, nouveau théâtre du 8e, qui est voisin de l'ANES, puisqu'il est dans le 8e et que nous sommes dans le 7e, c'est-à-dire tout proche. Pour présenter à nos auditeurs Sylvie Mongin-Algan, je rappellerai qu'elle a été comédienne sous la direction de Rocher, Planchon et de Jean-Pierre Vincent, entre autres, dans les années 90, avant de fonder sa propre compagnie en 1987, qui deviendra en 1991, le collectif connu à Lyon sous le nom du D3-8, de la compagnie D3-8. Cette compagnie reçoit en 2003 la mission de la ville pour créer un nouveau théâtre dans le 8e, qui sera donc le NTH8. Et cette compagnie met en scène des pièces de répertoire aussi bien classique que contemporain ou antique, avec donc des auteurs tels que Aristophane, Paul Claudel, Vincent Badi qui fait partie du collectif D3-8, Vincent Badi, William Shakespeare, Corneille ou Patrick Carman pour les auteurs contemporains également. En 2005, Sylvie Mongin-Algan anime un atelier autour de Phèdre, du mythe de Phèdre, un spectacle qui s'appellera Dit Phèdre, à partir d'auteurs donc d'Euripide à Sarah Kane notamment. Donc avant d'évoquer plus particulièrement votre projet actuel autour de Phèdre, Sylvie Mongin-Algan, est-ce que vous accepteriez de nous parler un peu plus précisément du projet politique et artistique de la compagnie des 3-8 et de son action donc aussi bien dans le quartier du 8e que dans la ville de Lyon et la région?
Donc ce qui est particulier dans la présence du collectif des 3-8 à la direction du NTH8, c'est qu'il s'agit d'un collectif et que ça c'est un cas unique dans l'agglomération. Donc un collectif artistique, ça veut dire, en ce qui nous concerne, 4 artistes et puis leurs accompagnateurs sur le plan administratif et technique, 4 personnes qui réfléchissent ensemble et qui font des propositions artistiques très différentes sur qu'est-ce que c'est des artistes dans un théâtre, dans une ville où il y a déjà de nombreuses propositions artistiques et en revanche dans un quartier où il y en a peu et pas en ce qui concerne le théâtre. Donc ça, c'est une particularité. C'est un projet qui est très soutenu très soutenu financièrement, nous trouvons insuffisamment, mais en tout cas très accompagné et discuté avec les tutelles, que ce soit la DRAC, le Conseil Régional Rhône-Alpes, le département du Rhône et la ville de Lyon, à qui le bâtiment appartient. Il y a eu une sorte d'audace quand même à proposer à une équipe artistique. Nous avions des partenaires avant d'être ici, institutionnels, comme les Nuits de Fourvière, les Célestins, le Théâtre de Vénissieux, le Théâtre de... on était inscrits comme ça. Mais néanmoins, nous travaillions dans une friche industrielle à Villeurbanne, et c'était quand même un lieu artistique singulier. Et nous avions un positionnement, effectivement, politique de re-questionnement de l'institution, même des subventions publiques, de leur utilisation. Donc il y a une sorte de pari qui a été fait. On pouvait travailler dans un lieu plus institutionnel et de ne pas néanmoins, justement, de transformer ce lieu dans un lieu institutionnel de plus, c'est-à-dire avec des partenaires de subventions publiques, mais qui est... Et nous, depuis le début, nous positionnons comme un lieu pilote de questionnement sur... Et il y a beaucoup de choses que nous avons impulsées ici qui se retrouvent dans d'autres théâtres aujourd'hui, comme des ateliers en lien avec les artistes et le public, des ateliers de pratique théâtrale, qui était quelque chose qui se faisait dans la friche, on était les seuls quasiment à les faire, qu'on a fait ici et qui se refont dans plein d'autres théâtres, dont nous réjouissons. Pareil sur les questions de tarification, il y a des questionnements que nous avons posés, nous, et nous voyons bien qu'ils sont relayés. Bon, donc, cette mission-là de questionner grâce à des artistes et des accompagnateurs de projets artistiques. Et dans un théâtre, cette mission de re-questionnement de toutes les pratiques, ça c'est la nôtre. Après, sur l'histoire de proximité, il y a de proximité d'un public qui n'est pas un public de théâtre, il y a des projets conduits par des artistes, notamment par Vincent Badi, qui est auteur, qui a beaucoup nourri son travail d'écriture et de mise en scène, des rencontres avec des membres du quartier et qui en a fait théâtre, fait écriture et fait théâtre. Donc on peut dire que sa démarche artistique depuis qu'il travaille sur ce territoire-là s'est beaucoup enrichie de ces rencontres-là Et je pense que du coup, l'avis des habitants du 8e s'est aussi enrichi du coup de la rencontre avec le théâtre. Et ce que nous faisons aussi, du coup, c'est un atelier depuis le début, un atelier pour enfants et pour adolescents. C'est la seule chose qu'on fait uniquement pour les gens du quartier, sinon on essaye au contraire de faire du brassage. Hein, mais là, il y a une telle demande que. Et donc, depuis le début, c'est toujours une équipe artistique. C'était d'abord Rose Giovannini, maintenant c'est l'équipe qui s'appelle OALD, et c'est la construction d'un projet de création théâtrale avec des enfants et des adolescents. Actuellement, ils travaillent sur la représentation de l'Afrique pour les enfants du quartier des États-Unis, et ils travaillent aussi avec des enfants du Burkina Faso sur la représentation de l'Europe et accidentellement de la France, du coup, au Burkina Faso, et ils inventent un spectacle à partir de ces rencontres intercontinentales, on va dire. Donc, et c'est toujours un lien. Donc, ça, je pense que dans l'inscription dans la vie de ces enfants ou adolescents-là, c'est très déterminant. Certains, après, ont décidé d'aller faire une option théâtre au lycée Saint-Ex, au lycée Saint-Just. Donc, il y a quelquefois une vraie. Et autour d'un enfant et d'un adolescent, c'est toute une famille et tout un réseau social qui se développe. Donc voilà, ça c'est des extraits concrets. Après, ce dont nous témoignons, nous, c'est l'existence de gens qui travaillent tous les jours. On s'appelle les 3-8, c'est pas pour rien. Il y a des gens qui travaillent le matin, le midi, le soir, c'est pas toujours les mêmes. Ça témoigne de quelque chose dans ce quartier. Il y a un lieu de vie autre que aller au supermarché et accompagner ses enfants à l'école dans ce quartier-là. Et on est aussi un lieu, je pense, d'abri, tout simplement, pour des jeunes de quartier, adolescents, qui n'ont aucun lieu où se réfugier. Et ne serait-ce que le petit abri du théâtre est un lieu non hostile pour certains jeunes du quartier. Enfin, c'est à tous les niveaux. Et en revanche, artistiquement, nous ne considérons pas que nous avons une mission sociale. Nous, ce que nous avons à faire, c'est le théâtre que nous avons à faire. Et sûrement, le théâtre que nous avons à faire est influencé et nourri de notre présence là. Et du coup, naturellement, il y a une connexion possible qui se fait. On n'est pas en mission, vous voyez? Voilà.
D'accord.
C'est comme ça qu'on le prend, quoi.
J'imagine, bien entendu, que cette expérience, dont on sent qu'elle est très forte et qu'elle marque justement votre travail artistique, j'imagine donc qu'elle a nourri votre création, Phèdre, et qu'elle transparaît d'une certaine manière, peut-être pas forcément perceptible, directement perceptible par le spectateur, mais j'imagine qu'elle accompagne ce projet aussi et qu'elle donne une plus grande nécessité à la réalisation de ce projet.
En tout cas, jamais rien n'est direct, en effet, dans la façon dont les choses ressortent entre l'expérience vécue et l'expression sur le plateau, bien sûr. Quand vous racontiez un peu ce que j'avais fait ou ce qu'on avait fait dans Mise en scène, c'est vrai que jamais dans ce théâtre, nous avons balancé un texte de répertoire en soi. Chaque fois qu'il y a eu un texte classique, c'est toujours comme une ouverture et comme un préalable partagé avec ce qui se fait aujourd'hui.
Justement, l'Eddie Phèdre
Ouais,
rend bien compte
exactement ça.
de
C'est-à-dire
ce
que
projet.
quand on présentait l'Eddie Phèdre, à 18h30, le public voyait soit Euripide, soit Sénèque, soit Garnier, soit Racine,
Racine.
soit Gide, qu'on considérait comme avec son Thésée, comme une sorte de préalable, comme ça. Et en deuxième partie, il y avait des aventures dans l'écriture théâtrale du XXe siècle avec Tsvetaïeva, Sarah Kane, déjà Ximena Escalante, et puis. J'en oublie parce que j'oublie tout. Mais enfin bon, il y en avait Durif, pauvre Folfèdre, et je pense Ritsos aussi, j'imagine. Donc voilà. Donc en fait, et pareil, quand on a travaillé sur La Cerisaie de Tchekhov, c'était renourri de l'expérience de mémoire des acteurs, de l'équipe artistique sur leur propre enfance, leur lieu de nostalgie, et c'était devenu notre Cerisaie. Donc c'est puisque nous, l'idée, c'est un peu nous avons des racines imaginaires dans des répertoires, et nous nous appuyons sur ces racines-là pour inventer le théâtre d'aujourd'hui. Donc nous faisons partager ces origines-là et pour emmener là où nous allons. C'est plutôt une façon de. C'est comme ce serait comme une table dramaturgique, on ouvrirait au public aussi notre table ou notre mémoire, notre coffre à jouets personnel. Et donc on les ouvre et on les donne à voir. Par contre, l'enjeu ici est quand même beaucoup plus sur la création contemporaine, clairement.
Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que par le détour, par l'antique, par exemple, ou par le passé, vous revendiquez un ancrage dans le présent, dans un espace et un temps présent.
Oui, parce que le présent, je pense que parfois, il peut y avoir l'illusion que le présent sort de la tête de celui qui l'énonce. Or, le présent est nourri de qui nous sommes, donc de nos rêves, donc de ce que nous avons accumulé avant. Et voilà, c'est aussi affirmer que le présent ne sort pas du chapeau, comme on essaie souvent, enfin, comme c'est un peu l'illusion qui est donnée de la modernité. Ça, on sait bien d'où nous rêvons, d'où que c'est un ancrage très lointain, bien au-delà même de ce que nous savons nous-mêmes, ce que nous savons nous-mêmes. Et là, c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup sur le projet des dix Phèdres, enfin, et de la Phèdre que je fais aujourd'hui.
Et qui donc se centre dans un projet plus global de polyptyque, ouais. À partir donc d'œuvres de Ximena Escalante.
Donc oui, Ximena Escalante, c'était la seule auteure dont j'ai mis en scène une Phèdre, dans le cadre des dix Phèdres, qui est un projet que j'ai fait avec Guy Néjon, hein. D'ailleurs c'est un autre membre très important du collectif Les Trois Vites. Donc quand j'ai mis en scène cette Phèdre-là, c'était la seule qui ne soit pas d'Europe, voilà, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc j'ai fait sa connaissance et j'ai lu d'autres textes d'elle qui venaient juste d'être traduits et qui étaient aussi d'autres réécritures d'histoires. Bon, il y avait Salomé, enfin, une pièce s'appelle moi aussi, je suis un prophète, Électre se réveille et Andromaque Aréale, et donc cette pièce-là. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui est en train de faire son œuvre théâtrale et qui, son œuvre d'écriture, et qui, comme moi, en fait, s'empare d'histoires d'avant et les inscrit dans le monde d'aujourd'hui, mais pas par une volonté de modernisation, ça, parce que juste l'imaginaire qu'elle a, il est l'imaginaire d'aujourd'hui, mais qui les nourrit, son imaginaire, de toutes ces histoires qui pour elle sont nées de l'autre côté de la Méditerranée, avant même l'exil de ses grands-parents vers le Mexique, en gros, c'est ça. Elle a dit beaucoup, une chose qui moi me nourrit beaucoup comme metteuse en scène, en fait, c'est nous sommes faits de nos rêves, les gens, nous sommes faits de nos rêves, et de bon, qu'est-ce qui nourrit nos rêves? C'est ça. Et quand elle voit dans la rue passer une femme, elle dit, tiens, c'est une Phèdre, tiens, c'est une Hélène, tiens, c'est une Andromaque, tiens, bon, elle est beaucoup, elle perçoit, elle a l'impression que le monde d'aujourd'hui est peuplé,
de rêves,
oui,
hein.
Est peuplé de ces vies-là, quoi, de mythes qui nourrissent, qui alimentent, qui nous sommes. Et l'enjeu de son écriture, c'est de raconter comment nous sommes faits de nos rêves et des mythes et de la tragédie, et comment on est capable éventuellement de créer un pas de côté par rapport à ça.
Justement, à l'ENS, nous connaissons beaucoup, enfin bien, très bien, la pièce de Racine, le Phèdre de Racine, ou le Phèdre de Ripide, ou celui de Sénèque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, donc nous raconter quelle trace de ce mythe peut-on retrouver dans le Phèdre de Ximena Escalante?
Chez Ximena, on croise la grand-mère Europe, on croise Pasiphae, la mère, on croise le frère, le Minotaure, on croise... Elle l'appelle Bacchus, donc l'amoureux d'Ariane, et l'histoire est autant celle d'Ariane que celle de Phèdre, tous les autres Grecs. Et tous les autres Grecs, c'est féminin, donc c'est aussi Pasiphae Europe. Donc elle inscrit vraiment cette Phèdre-là dans cette filiation. Donc c'est vraiment la Phèdre des origines, on va dire, hein. Et alors après, par rapport à celle de Racine, l'histoire... que raconte Racine, c'est la toute dernière demi-heure de l'histoire de Ximena Escalante, de Phèdre et autres Grecs. Et donc, ben, il y a le désir pour Hippolyte, mais Thésée n'est pas là. Le problème, c'est pas du tout Thésée. Il arrive même pas dans cette pièce-là. Elle se châtie toute seule.
D'accord.
Enfin, je sais pas si elle se châtie, parce que justement, la particularité, c'est qu'autant il y a des règles de morale posées, il n'y a pas de présence divine, pas du tout de sentiment de faute, qui est vraiment une notion qui empoisonne le sang de Phèdre et qui envahit tous les vers de Racine quand même dans la Phèdre. Et là, non, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment arriver à être soi et à échapper à l'héritage des mères et des grands-mères qui ont subi leur désir, c'est ça qu'elles ont subi, Pasiphae et Europe. Chacune, elle se positionne comme étant, ayant été capable d'assouvir leur désir. Et Ximena Escalante, enfin, je pense plutôt qu'elles ont subi leur désir. Et comment arriver à trouver son propre chemin. Et l'embêtant du désir de Pasiphae, en tout cas, c'est que... enfin, l'embêtant du désir de Phèdre aussi, elle l'accomplissait, c'est qu'elle entraîne quelqu'un d'autre dans l'accomplissement de son désir. Et donc, du coup, comment Phèdre, chez Ximena, est capable de ce pas de côté qui fait qu'elle n'entraîne qu'elle-même dans son propre désastre et que Hippolyte sera indemne de l'histoire. Voilà, c'est comment arrêter un cycle qui fait que le désir est forcément lié à la mort ou à la destruction de l'autre, de l'objet aimé. Je pense que c'est ça la singularité réellement de cette pièce. Et puis quand même que c'est que la dernière partie, parce que ce qui intéresse beaucoup Rimena, c'est l'enfance, l'adolescence, voilà, c'est, et la relation Ariane-Fed. Ça l'intéresse beaucoup. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'œuvres qui traitent de cette relation-là, quoi. En général, c'est Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous pouvez vous ou fut laissé. Bon, ben voilà, et c'est tout. Là, non, c'est très important dans la pièce.
Tel que vous me présentez ce projet d'écriture et votre travail qui se devine dans ce que vous dites du texte de Rimena, le mythe m'apparaît désaxé hors de ce qui fait événement tragique dans l'écriture de la pièce de Racine, par exemple.
Oui, surtout avec Racine, il y a un grand écart.
C'est-à-dire qu'on est hors du temps de la tragédie, qui est le moment de la reconnaissance du désir, de l'aveu. Voilà,
on a ça aussi, mais c'est
un moment.
Oui, ce qu'on a très fortement chez elle, enfin, ça commence dans une fête foraine. On peut dire que par rapport à l'histoire, le lieu, la Crète est devenue une fête foraine. Enfin, voilà. Et elle a l'énoncé de son destin par Tirésias, un mendiant, qui lui dit qu'elle s'appelle Phèdre et qu'elle a un destin qui s'est mis en route dans son corps. Et il fait coïncider l'annonce de ce destin-là à la rencontre de Ariane et Thésée, dans un jeu du labyrinthe, comme dans toutes les fêtes foraines. Voilà. Donc, à cet instant de cette fête foraine, Phèdre découvre le mot destin, c'est qu'il s'est mis en marche parce qu'elle s'appelle Phèdre, et Thésée et Ariane se sont rencontrés, et Ariane a aidé Thésée à sortir du labyrinthe. Donc, il y a une sorte de prologue des 10 ans de Phèdre où est énoncée l'idée du destin. Et ça, on peut dire que c'est très différent, mais chez Euripide, dans cette pièce qui s'appelle Hippolyte, quand ça commence par... je ne sais plus s'il appelle Cypris, Aphrodite, peu importe, énonce que tout va se dérouler de cette manière-là, qu'il y a un destin et que ça doit s'accomplir. Et tant pis si Phèdre, qui est au milieu de tout ça, va en prendre plein la tronche. Voilà. Donc, il part vraiment de l'énoncé. Et puis après, y a la mise en route de l'accomplissement du destin, c'est-à-dire de comment Phèdre vole le fiancé de sa sœur. Ça, c'est l'adolescence de Phèdre sur un bateau. Enfin, je pense que ça reprend vraiment aussi ce qui est raconté, en tout cas dans ce que reprend avec beaucoup d'esprit Gide dans son Thésée. Et donc, comment la petite Phèdre récupère le fiancé de sa sœur. Voilà. Et après, comment sa sœur Ariane reste, là, c'est dans un bar qui s'appelle le Naxos, mais elle décide de ne pas continuer le voyage et de rester. On la retrouve quelques années plus tard dans ce bar du Naxos. Et après, et dans le même temps de ces années passées, comment Phèdre se retrouve dans la maison de Thésée avec, parmi ses enfants, un beau-fils pour lequel elle éprouve un désir et qu'elle énonce à une amie. Voilà. Donc c'est vraiment l'inverse effectivement du lieu unique et du temps unique, puisque ce qui n'est évoqué que dans 2 vers ou dans 4 vers chez Racine, sur les origines, tout ça, là c'est épique. Enfin, c'est une narration et on a un lieu d'enfance qui est la fête foraine, on a le lieu du voyage, de la traversée, qui est plutôt le passage de l'enfance à l'âge adulte, on va dire. Elle va avoir 14 ans, une nuit où lui apparaît sa mère qui lui raconte tout ce que travaille le sang de ses femmes, et que 14 ans, c'est l'âge de la folie et du désir. Et puis après, les 35 ans attribués, enfin, d'un point de vue chronologique possible pour avoir un fils, un beau-fils, etc. Et là, où Thésée est parti. Donc ça correspond plus dans l'histoire au voyage de Thésée aux enfers. Là, il est parti dans le monde pour amener de l'argent. Voilà. Mais il a disparu, personne, et il ne reviendra plus.
La question que vous semblez poser, donc, à travers ces évocations, c'est comment sortir de la tragédie, finalement. C'est-à-dire comment échapper à la culpabilité du désir.
Voilà. Mais en même temps, elle n'y échappe pas, parce que ça se termine par dialogue avec un personnage qui s'appelle Moïra. Bon, je pense qu'il fait partie, c'est les Moires, quoi, hein, je pense. Donc, donc avec elle-même, et ça se termine. Et voilà, tu as perdu. Et tout le long de la pièce se pose la thématique de la pièce, au dehors du labyrinthe, qui serait plutôt le labyrinthe du désir, comment on s'en débarrasse. Et il y a aussi l'idée donc du jeu. On joue pour perdre, on est sûr de perdre. un jeu s'enclenche, on est sûr d'être le perdant puisqu'il y a la mort. Hein. Donc ça se termine, les derniers mots, c'est « et voilà, tu as perdu », comme c'était dit, énoncé au tout début dans le premier acte. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de la tragédie, parce qu'on va bien au bout de... mais il y a un moment où on n'a plus envie de jouer, bah, en tout cas un moment où Phèdre n'a plus envie de jouer, disons, et où il y a désir de repos, l'idée du suicide, ou bien de simplement d'avoir le cœur qui lâche, ou bien je sais pas, il n'est pas résolu. C'est-à-dire comment elle abandonne la partie par la mort, ça n'est pas, ou par le sommeil, ce n'est pas résolu. C'est assez onirique dans la pièce de Rimena. C'est pas une pendaison, c'est pas des médicaments. On pourrait dire, comme c'est concret, ça pourrait prendre des cachets. Non, c'est pas du tout énoncé comme ça. C'est à un moment, Moïra l'accompagne pour arrêter, tout simplement. Mmh. Donc il y a bien l'accomplissement, il y a bien la notion de tragédie, sauf qu'elle n'entraîne personne avec elle. C'est ça qui est moderne, enfin, je pense. Et aussi que là, enfin, vraiment, elle sait n'entraîner qu'elle-même dans ce cycle auquel elle n'a pas pu échapper quand même.
De la même manière que vous assumez la tragédie, est-ce que vous semblez assumer la dimension vraiment ludique de la pièce et de votre spectacle?
Oh, bah oui, parce que ce serait pas possible.
Puisqu'on parlait de jeu, de plaisir.
Ça commence dans un labyrinthe, c'est un jeu, c'est lancé comme un jeu. Après, quand même, quand elle est sur son bateau, elle rencontre, et ça a même valeur onirique, Pasiphaé qui vient dans ses rêves, mais aussi des sirènes qui lui disent de voler le mari de sa sœur, que c'est pas un souci. Après, elle a une grand-mère Europe qui revient en lui disant qu'il faut absolument qu'elle assouvisse son désir sur son beau-fils. Mais tout ça est très trivial, très très direct, très cru. Il y a beaucoup de fantaisie. C'est, enfin, de fantaisie au sens imaginaire, enfin, plus en anglais du terme, quoi. Il y a donc la question d'être drôle ou pas, c'est il faut juste être à la hauteur des propositions baroques, on va dire, du texte. Mais en revanche, le chemin vers le tragique, il a lieu. C'est-à-dire qu'elle n'esquive pas, l'auteur n'esquive, et donc moi non plus, bien sûr, elle n'esquive pas le chemin vers être face à soi-même et abandonner tout jeu, justement, que ça se termine pas en jeu, quoi. Ça se termine en accomplissement. Mais par contre, en route, on a plein de chemins possibles. Voilà, c'est vivant, et voilà, quoi.
Le jeu est dans le temps de la représentation,
ouais, mais à l'accomplissement, ça s'accomplit
il
par...
Il faut mettre un terme
ouais,
au
voilà,
jeu.
Et... C'est aussi tragique, je trouve, la fin, même si le ton est autre, aussi tragique que chez Racine ou que chez Euripide. Ou chez Sénèque ou Garnier, tout ça. Garnier étant une pièce que j'adore, qui s'appelle encore Hippolyte. Hippolyte de Garnier, c'est une pièce magnifique. Et moins travaillée par la faute que celle de Racine, quoi, quand même. Et ce qui est moderne aussi, enfin, c'est l'absence des dieux. Le seul dieu qui apparaît, c'est Bacchus, mais il n'est même pas nommé comme tel. Hein. Et c'est plutôt que le sentiment de la faute, il est soit social, soit en soi. C'est vraiment. On est son propre référent, ou la société le référent pour la faute, pas du tout. Un ordre, il n'y a pas de verticalité, quoi, c'est pas comme ça. C'est pas un monde vertical, pas du tout. Et je trouve que justement l'idée de la croisière, de l'horizontalité, comme ça, du voyage et du trajet des personnages, c'est plutôt la représentation du monde de Rimena. Ça me paraît, ça aussi, assez contemporain par rapport à cette histoire, oui, verticale, avec les dieux, les rois, les... Ouais.
Très bien, donc nous espérons que cette présentation du projet de Phèdre, donc une autre Phèdre au théâtre
ouais,
de Vénitieux.
Oui, et puis c'est bien une Phèdre et autre grec au féminin, hein, c'est vraiment toutes ces femmes, et puis bon, les hommes, mais qui se trouvent être un peu, être le... Souvent, les histoires de femmes sont écrites uniquement dans leur relation aux hommes, parce qu'elles ont été écrites par des hommes, donc c'est bien. Enfin, c'est assez normal. On écrit à partir de ce qu'on peut connaître ou imaginer. Et là, je trouve que justement, elle écrit l'histoire des femmes. Les femmes ne sont pas les victimes des hommes. Elles sont plutôt victimes de leur. Enfin, si elles sont victimes de quelque chose, enfin, en tout cas, elles sont responsables de leur histoire. Et c'est. Elles sont constituées d'abord d'une histoire avec la sœur, avec la mère, avec la grand-mère. Donc le trajet des femmes est vraiment inventé à partir de quelqu'un qui s'inscrit, qu'on agit à partir de soi-même et non pas dans une relation. Donc Thésée, finalement, pour ça il ne revient même pas à la fin. Thésée nourrit le chemin de Phèdre, mais c'est plus parce qu'elle a toujours les affaires de sa sœur quand ils rétrécissent qu'elle a aussi le fiancé de sa sœur. C'est plus dans la relation à sa sœur que de subir l'amour. Et pareil sur Hippolyte, est un peu le jouet de son désir. Elle n'est pas la victime. Les femmes ne sont pas des héroïnes victimes.
Elles sont responsables. Hein.
Responsables, héroïnes et puis responsables. Voilà, c'est ça. Et donc, elles ne se situent pas par rapport à un autre qui serait le détenteur du monde et de l'organisation qui est... dans ce monde de l'Antiquité, l'homme, obligatoirement. Voilà.
Très bien, donc merci beaucoup.
Alors ça joue donc vendredi 3 février à 20h et le samedi à 17h. Et Jimena Escalante est pour 15 jours en France. Elle vient voir cette création. Cette pièce a été jouée pendant 2 ans au Mexique. C'est un énorme succès. Et il y a un réalisateur qui va en faire un film, probablement qui va se tourner en Espagne. Donc ils verront le spectacle. Donc elle est là. Et le samedi, après la représentation de 17h, il y a une rencontre et elle sera présente. Donc elle parle français, elle comprend le français, mais les hispanistes sont bienvenus parce que ça peut nourrir le débat autrement. Voilà.
Bien sûr. Et nous informons du même coup nos auditeurs que 10 places sont à gagner pour la représentation de samedi qui précède justement cette rencontre.
Très bien.
Et toutes les informations pour obtenir ces places figure donc à côté de l'émission sur le site de Transistor.
Et juste ce que je vais rajouter, c'est que Jimena n'écrit pas que des histoires d'autrefois aujourd'hui, elle écrit aussi d'autres pièces. Il se trouve que ce sont celles-là qui ont été traduites, mais elle a écrit quelque chose sur Frida Kahlo, sur Colette, sur quelque chose qui s'appelle Neurasthénie, sur uniquement les rapports amoureux, Toucher aussi qui associe les rapports amoureux à des jeux d'escrime. Enfin bon, elle explore beaucoup le théâtre et les complexités de l'être humain à partir de l'histoire d'aujourd'hui aussi. Hein. C'est pas une spécialisation qu'elle se fait. C'est juste le point pour le moment, notre premier point de rencontre. Mais moi, j'espère continuer le travail de découverte de son théâtre, pas uniquement sur les figures mythologiques.
Très bien, mais on assistera avec plaisir à cette collaboration ultérieure. Et en attendant, on attend avec impatience donc de venir voir Phèdre au Théâtre de Vénissieux.
Voilà, et si par malheur vous n'étiez pas libre à la fin de cette semaine, à la fin du mois de février se jouera au NTH 8 « Moi aussi je veux un prophète », donc il y a aussi un texte de Jimena
autour
de Salomé. Donc c'est toute fin, enfin c'est la semaine qui relie février à mars.
Très bien. Merci encore.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.